Volume 2, Appendice, Section 12, Preuves scientifiques et ésotériques de la théorie nébulaire et objections qu'elle soulève. À maintes reprises, on a récemment opposé à la cosmogonie ésotérique le fantôme de cette théorie et les hypothèses qui en découlent. Ce très scientifique enseignement peut-il être nié par vos adeptes, nous demande-t-on? Pas entièrement, répondons-nous, mais les aveux des savants eux-mêmes le tuent, et il ne reste rien que les adeptes puissent nier. Pour faire de la science un tout complet, il faut vraiment l'étude du côté spirituel et psychique, aussi bien que du côté physique de la nature. Autrement, elle ressemblera toujours à l'anatomie de l'homme, discutée jadis par le profane au point de vue de l'enveloppe extérieure et dans l'ignorance de la structure interne. Platon lui-même, le plus grand philosophe de son pays, commit, avant son initiation, la faute d'affirmer que les liquides passent dans l'estomac en traversant les poumons. Sans le concours de la métaphysique, comme le dit M.H.J. Slack, la science réelle est inadmissible. Les nébuleuses existent, et pourtant la théorie nébulaire est fausse. Une nébuleuse existe dans un état de complète dissociation élémentale. Elle est gazeuse et, quelque chose de plus, qui peut difficilement être en rapport avec les gaz tels que les connaît la science physique. Enfin, elle est autolumineuse. Voilà tout. Les 62 coïncidences qu'énumère le professeur Stephen Alexander pour confirmer la théorie nébulaire peuvent être toutes expliquées par la science ésotérique, mais comme nous n'en écrivons pas un ouvrage d'astronomie, nous n'en tenterons pas la réfutation pour le moment. Laplace et Faye se rapprochent plus que tous les autres de la théorie correcte, mais dans la théorie actuelle, il reste bien peu de choses des idées de Laplace, sauf pour les grandes lignes. Pourtant, John Stuart Mill dit, citation, « Il n'y a rien d'hypothétique dans la théorie de Laplace. C'est un exemple de raisonnement légitime partant de l'effet actuel pour remonter à sa cause passée. Elle se borne seulement à affirmer que les objets qui existent réellement obéissent aux lois auxquelles on sait que sont soumis tous les objets terrestres qui leur ressemblent. » Fin de citation. Cela venant d'un logicien aussi éminent que le fut Mill, aurait beaucoup de valeur si l'on pouvait seulement établir que les objets terrestres qui ressemblent aux objets célestes situés à la distance à laquelle se trouvent les nébuleuses ressemble à ces objets réellement et non pas seulement en apparence. Une autre des erreurs que renferme, au point de vue occulte, la théorie moderne telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est l'hypothèse d'après laquelle les planètes ont toutes été détachées du Soleil, qu'elles constituent les os de ses os et la chair de sa chair, alors que le Soleil et les planètes ne sont que des frères utérins ayant la même origine nébulaire, mais suivant une méthode différente de celle postulée par l'astronomie moderne. Les nombreuses objections des adversaires de la théorie nébulaire moderne contre l'homogénéité de la matière originelle diffuse, en se basant sur l'uniformité de composition des étoiles fixes, ne touchent nullement à la question de cette homogénéité, mais atteignent uniquement la théorie elle-même. Notre nébuleuse solaire peut n'être pas complètement homogène, ou plutôt il se peut qu'elle ne se révèle pas comme telle aux astronomes et qu'elle soit pourtant, de facto, homogène. Les étoiles diffèrent effectivement par les matériaux qui les constituent et montrent même des éléments tout à fait inconnus sur Terre. Néanmoins, cela ne change rien au fait que la matière primordiale, matière telle qu'elle est apparue même au moment de sa première différenciation de son état laya, c'est-à-dire au-delà du zéro de la ligne d'action, est jusqu'à présent homogène, à d'immenses distances, dans les profondeurs de l'infini, et aussi en des points qui ne sont pas très distants des limites de notre système solaire. Finalement, il n'y a pas un seul des faits que les savants adversaires de la théorie nébulaire lui opposent, si fausse qu'elle soit et par suite si illogiquement fatale qu'elle soit à l'hypothèse de l'homogénéité de la matière, qui puisse résister à la critique. Une erreur en amène une autre. De fausses prémices conduisent naturellement à de fausses conclusions, bien qu'une déduction inadmissible ne doive pas nécessairement affecter la validité de la proposition principale du syllogisme. On peut donc négliger toutes les échappatoires et toutes les déductions, tirée du témoignage des spectres et des lignes comme étant simplement provisoire pour le moment, et abandonner toutes les questions de détail à la science physique. Le devoir de l'occultiste se rapporte à l'âme et à l'esprit de l'espace cosmique, et non pas simplement à son apparence illusoire et à son comportement, celui de la science physique officielle, et d'analyser et d'étudier sa coquille, l'ultima thule de l'univers et de l'homme, d'après le matérialisme. Avec celui-ci, l'occultisme n'a rien à faire. Ce n'est qu'avec les théories de savants comme Kepler, Kant, Hochstedt et Sir William Herschel, qui croyaient à l'existence d'un monde spirituel, que la cosmogonie occulte peut traiter et tenter d'arriver à un compromis satisfaisant, mais les idées de ces physiciens différaient grandement des spéculations modernes plus récentes. Kant et Herschel abritaient dans leur mental des théories sur l'origine et la destinée finale, ainsi que sur l'aspect actuel de l'univers, qui étaient basées sur un point de vue bien plus philosophique et psychique, tandis que la cosmologie et l'astronomie moderne repoussent aujourd'hui tout ce qui ressemble à une recherche dans les mystères de l'être. Le résultat est tel que l'on pouvait l'attendre. Un échec complet et d'inextricables contradictions dans les mille et une variétés de ce que l'on appelle les théories scientifiques et dans la théorie dont nous nous occupons, comme dans toutes les autres. L'hypothèse nébulaire, impliquant la théorie de l'existence d'une matière primordiale diffusée dans un état nébuleux, n'est pas de date récente dans l'astronomie, comme chacun le sait. Anaximène, de l'école ionienne, avait déjà enseigné que les corps sidéraux étaient formés par la condensation progressive d'une matière primordiale pré-génétique, dont le poids était presque négatif et qui se trouvait répandue dans l'espace sous une forme extrêmement raréfiée. Tycho Brahe, qui considérait la Voie lactée comme une substance éthérée, pensa que la nouvelle étoile, qui fit son apparition en 1572 dans Cassiopée, avait été formée de cette matière. Kepler croyait que l'étoile de 1606 avait aussi été formée de la substance éthérée qui remplit l'univers. Il attribuait à ce même éther l'apparition d'un anneau lumineux autour de la Lune durant l'éclipse totale du Soleil qui fut observée à Naples en 1605. Plus tard encore, en 1714, l'existence d'une matière autolumineuse fut admise par Halley dans les Philosophical Transactions. Finalement, le journal qui porte ce nom publia, en 1811, la fameuse hypothèse de l'éminent astronome Sir William Herschel au sujet de la transformation des nébuleuses en étoiles. Et après cela, la théorie nébulaire fut acceptée par les Académies royales. Dans Five Years of Theosophy, à la page 245, on peut lire un article qui a pour titre « Les adeptes démentent-ils la théorie nébulaire ?» La réponse donnée est la suivante. Non, ils ne démentent ni ses propositions générales ni la véracité approximative des hypothèses scientifiques. Ils se bornent à nier que la théorie soit complète et s'élèvent contre la nature absolument erronée des nombreuses théories anciennes que l'on qualifie de démodées et qui, durant le siècle dernier, se sont suivies si rapidement. On prétendit à l'époque que c'était une réponse évasive. Un pareil manque de respect envers la science officielle, prétendait-on, doit être justifié en remplaçant la théorie orthodoxe par une autre théorie plus complète et assise sur une base plus solide. À cela, on ne peut répondre qu'une chose. Il est inutile d'émettre des théories isolées à propos de choses qui font partie d'un système complet et suivi, attendu qu'une fois séparées de la portion principale de l'enseignement, elles perdraient nécessairement leur cohérence vitale et ne seraient alors d'aucun profit lorsqu'on les étudierait séparément. Pour être capable d'apprécier et d'accepter la manière de voir occulte au sujet de la théorie nébulaire, il nous faut étudier le système cosmogonique ésotérique tout entier, et le moment n'est guère venu encore d'inviter les astronomes à accepter Foat et les divins constructeurs. Les conjectures incontestablement correctes de Sir William Herschel, conjectures qui n'avaient rien de surnaturel en elles-mêmes, comme de dire que c'était peut-être par métaphore que le Soleil était appelé un globe de feu, et ses premières théories sur la nature de ce que l'on appelle maintenant la théorie des feuilles de saule de Nasmyth, n'eurent elles-mêmes pour résultat que de faire tourner en dérision le plus éminent de tous les astronomes, par des collègues infiniment moins éminents qui ne voyaient encore dans ses idées que des théories dues à une imagination fantaisiste. Avant que le système ésotérique complet puisse être divulgué et puisse être apprécié par les astronomes, il faudrait que ceux-ci en revinssent à quelques-unes de ces idées surannées, non pas seulement à celles d'Herschel, mais aussi aux rêves des plus anciens astronomes hindous, et abandonnassent leurs propres théories, qui n'en sont pas moins fantaisistes pour avoir fait leur apparition environ 80 ans plus tard que celle d'Herschel et bien des milliers d'années plus tard que les autres. Avant tout, il faudrait répudier les idées qu'ils ont au sujet de la solidité et de l'incandescence du Soleil, attendu que le Soleil flamboie incontestablement mais ne brûle pas. Ensuite, les occultistes déclarent, à propos des feuilles de saule, que ces objets, comme les appelle Herschel, constituent la source immédiate de la lumière et de la chaleur solaire. Bien que l'enseignement ésotérique ne les voit pas sous le même jour, c'est-à-dire comme des organismes participant à la nature de la vie, attendu que les êtres solaires ne se placeraient vraisemblablement pas dans le champ d'un télescope, cet enseignement n'en affirme pas moins que l'univers entier est rempli d'organismes de ce genre, conscients et actifs en proportion de ce que leurs plans sont rapprochés ou éloignés de notre plan de conscience, et enfin, ajoute que le grand astronome avait raison lorsqu'en spéculant sur ces prétendus organismes, il disait que « nous ignorons si l'action vitale n'est pas capable de développer en même temps la chaleur, la lumière et l'électricité ». Au risque de se voir tourner en dérision par le monde des physiciens, les occultistes maintiennent en effet que toutes les forces des savants tirent leur origine du principe vital de la vie une collective de notre système solaire, vie qui constitue une partie, ou plutôt l'un des aspects de la vie une universelle. Nous pouvons donc, comme on l'a fait dans l'article dont nous parlons, où l'on a affirmé en s'appuyant sur l'opinion des adeptes, qu'il suffisait de faire un résumé de ce que ne connaissent pas les physiciens solaires, nous pouvons, dis-je, définir notre attitude à l'égard de la théorie nébulaire moderne et de ses erreurs évidentes, en nous bornant à signaler les faits qui sont diamétralement opposés à la forme qu'elle revêt actuellement. Tout d'abord, qu'enseigne donc cette théorie? Si nous résumons les hypothèses ci-dessus, il devient évident que la théorie de Laplace, que l'on a du reste rendue méconnaissable aujourd'hui, était une théorie malheureuse. Il postule d'abord l'existence d'une matière cosmique sous forme d'une nébuleuse diffuse, si ténue que sa présence ne pouvait guère être soupçonnée. Il ne fait aucun effort pour pénétrer les arcanes de l'être, sauf en ce qui concerne la propre évolution de notre petit système solaire. En conséquence, qu'on accepte ou repousse sa théorie, dans la manière dont elle affecte les problèmes cosmologiques dont on cherche la solution, on ne fait guère que reporter le mystère un peu plus loin. Quant à l'éternelle question, d'où vient la matière elle-même ? Qu'est-ce qui détermine le mouvement d'évolution, ses agrégations et dissolutions cycliques, d'où provient l'ordre d'une symétrie si exquise suivant lequel les atomes primordiaux se groupent entre eux? Laplace ne cherche même pas à répondre. Tout ce que l'on nous présente se borne à une esquisse des principes généraux probables sur lesquels on suppose que le processus actuel est basé. Or, quelle est l'explication si célèbre aujourd'hui que l'on donne de ce processus? Quelle théorie nous a-t-il donné qui soit si admirablement nouvelle et originale pour que ces grandes lignes, au moins, puissent servir de base à la théorie nébulaire moderne? Voici ce qu'on trouve dans les divers ouvrages d'astronomie. Laplace pensait que, par suite de la condensation des atomes de la nébuleuse primordiale, conformément à la loi de gravitation, la masse alors gazeuse ou peut-être partiellement liquide acquit un mouvement de rotation. La rapidité de ce mouvement de rotation s'étant accrue, cette masse prit la forme d'un disque mince, puis la forme centrifuge surpassant la force de cohésion, d'énormes anneaux se détachèrent des bords de ces masses incandescentes et tourbillonnantes, et ces anneaux se contractèrent nécessairement en vertu de la gravitation, telle qu'on l'admet, pour former des corps sphériques, qui conservèrent nécessairement la même orbite que la zone extérieure dont ils avaient été séparés. Note. Laplace concevait que les zones internes et externes de l'anneau tourneraient avec la même vélocité angulaire, ce qui serait le cas pour un anneau solide, mais le principe des aires égales exige que la zone interne tourne plus rapidement que la zone externe. Le professeur Winchell relève bien des erreurs commises par Laplace, mais comme géologue, il n'est pas lui-même infaillible dans ses spéculations astronomiques. Fin de la note. La vélocité de la partie extérieure de chaque planète naissante, dit-il, étant supérieure à celle de la partie intérieure, il en résulte un mouvement de rotation autour de son axe. Les corps les plus denses seraient projetés les derniers, et enfin, durant les états préliminaires de leur formation, les globes nouvellement détachés projetteraient à leur tour un ou plusieurs satellites. En décrivant l'histoire de la rupture des anneaux et de leur transformation en planètes, Laplace dit, citation, « Presque toujours, chacun des anneaux de vapeur a dû se fragmenter en de nombreuses masses qui, se mouvant avec une vélocité à peu près uniforme, ont dû continuer à circuler à la même distance autour du Soleil. Ces masses ont dû prendre une forme sphéroïde, ainsi qu'un mouvement de rotation dirigé dans le même sens que celui de leur révolution, puisque les molécules internes, les plus proches du Soleil, devaient être animées d'une vélocité inférieure à celle des molécules externes. Ces masses ont dû alors former autant de planètes à l'état de vapeur, mais lorsque l'une d'elles était assez puissante pour réunir successivement, en vertu de son attraction, toutes les autres autour de son centre, l'anneau de vapeur a dû se transformer en une unique masse sphéroïde de vapeur tournant autour du Soleil et animée d'un mouvement de rotation du même sens que sa révolution. C'est ce dernier cas qui a été le plus fréquent, mais le système solaire nous fournit un échantillon du premier cas, dans les quatre petites planètes qui se meuvent entre Jupiter et Mars. Fin de citation. Bien que l'on ne trouverait que peu de personnes disposées à nier la magnifique audace de cette hypothèse, il est impossible de ne pas reconnaître les insurmontables difficultés qu'elle soulève. Pourquoi constatons-nous, par exemple, que les satellites de Neptune et d'Uranus sont animés d'un mouvement rétrograde? Pourquoi, en dépit de sa plus grande proximité du Soleil, Vénus est-elle moins dense que la Terre? Pourquoi aussi Uranus, qui est le plus éloigné, est-il plus dense que Saturne? Comment se fait-il que l'on constate une si grande variété d'inclinaisons dans les axes et dans les orbites des progénitures supposées du globe central, que l'on remarque de si frappantes différences dans les dimensions des planètes, que les satellites de Jupiter soient 288 fois plus denses que le globe qui leur a donné naissance, que le phénomène des météores et des comètes reste encore inexpliqué? Citons les paroles d'un maître. Citation. Les adeptes trouvent que la théorie centrifuge qui a pris naissance en Occident est incapable de tout expliquer. Que si on ne lui vient pas en aide, elle ne peut expliquer ni le pourquoi de chaque sphéroïde aplati, ni les évidentes difficultés que soulève la densité relative de certaines planètes. Effectivement, comment un calcul de force centrifuge pourrait-il nous expliquer par exemple pourquoi Mercure, dont la rotation, nous dit-on, n'est que d'environ un tiers de celle de la Terre et dont la densité n'est que d'environ un quart plus forte que celle de la Terre, aurait subi une compression polaire plus de 10 fois supérieure à celle qu'a subie cette dernière? Pourquoi aussi Jupiter, dont le mouvement de rotation équatoriale est, dit-on, 27 fois plus rapide et dont la densité n'est environ que d'un cinquième de celle de la Terre, aurait-il subi une compression polaire 17 fois plus grande que celle de la Terre? Ou bien encore, pourquoi Saturne, avec une vélocité équatoriale 55 fois supérieure à celle de Mercure pour lutter contre la force centrifuge, n'aurait-il subi qu'une compression polaire 3 fois supérieure à celle de cette dernière planète? Pour mettre le comble à toutes ces contradictions, nous sommes invités à croire aux forces centrales telles que les représente la science moderne, même lorsqu'on nous déclare que la matière équatoriale du Soleil, avec une vélocité centrifuge plus de 4 fois supérieure à celle de la surface équatoriale de la Terre et avec environ un quart seulement de la gravitation de la masse équatoriale, n'a pas manifesté la moindre tendance à faire saillie vers l'équateur solaire et n'a pas laissé voir le moindre aplatissement au pôle de l'axe solaire. En d'autres termes, plus clairs, le Soleil, quoique n'opposant que le quart de la densité de notre Terre à l'action de la force centrifuge, n'a pas du tout de compression polaire. Nous constatons que cette objection a été soulevée par plus d'un astronome mais n'a jamais provoqué une seule explication satisfaisante, autant que le sachent les adeptes. Aussi disent-ils, les adeptes, que les grands savants d'Occident, ne sachant à peu près rien de ce qui a trait à la matière cométaire, aux forces centrifuges et centripètes, à la nature des nébuleuses ou à la constitution physique du Soleil, des étoiles et même de la Lune, commettent une imprudence en parlant avec l'assurance dont ils font preuve de la masse centrale du Soleil qui projette dans l'espace des planètes, des comètes et quoi encore. Nous maintenons que le Soleil n'évolue que le principe de vie, l'âme de ses corps, âme qu'il donne et qui lui est restituée dans notre petit système solaire en sa qualité de dispensateur universel de vie, dans l'infini et l'éternité, et que le système solaire est le microcosme de l'unique macrocosme, tout comme l'homme l'est aussi lorsqu'on le compare avec son propre petit cosmos solaire. Extrait de Five Years of Theosophy, article « Do the Adept deny the Nebular Theory ?» Fin de citation. Le pouvoir essentiel que possèdent tous les éléments cosmiques et terrestres de générer en eux-mêmes une série harmonieuse et régulière de résultats, un enchaînement de causes et d'effets, prouve d'une manière irréfutable qu'ils sont animés par une intelligence ab extra ou ab intra, intérieure ou extérieure, ou bien qu'ils en cachent une dans ou derrière le voile manifesté. L'occultisme ne nie pas l'origine mécanique certaine de l'univers. Il proclame seulement la nécessité de l'existence de mécaniciens quelconques derrière ou dans ces éléments. Pour nous, c'est un dogme. Ce n'est pas le concours fortuit des atomes de Lucrèce, comme il le savait fort bien lui-même, qui a édifié le cosmos et tout ce qu'il renferme. La nature elle-même dément toute théorie de ce genre. L'espace céleste, qui renferme une matière aussi ténue que l'éther, ne peut suffire, avec ou sans attraction, à expliquer le mouvement commun des légions sidérales. Bien que le parfait accord de leurs révolutions réciproques indique clairement la présence d'une cause mécanique dans la nature, Newton, qui plus que les autres hommes était en droit d'avoir confiance dans ses propres déductions, n'en fut pas moins forcé d'abandonner l'idée d'expliquer toujours l'impulsion originale donnée aux millions de globes par les seules lois de la nature connues et par ses forces matérielles. Il reconnut complètement les limites qui séparent l'action des forces naturelles de celles des intelligences qui organisent et mettent en action les lois immuables. Or, si un Newton s'est vu obligé de renoncer à un tel espoir, quel est le pygmée du matérialisme moderne qui serait en droit de dire « j'en sais davantage » ? Pour qu'une théorie cosmogonique devienne complète et compréhensible, il faut qu'elle parte d'une substance primordiale diffuse dans toute l'étendue de l'espace illimité, et ayant une nature intellectuelle et divine. Cette substance doit être à la fois âme et esprit, la synthèse et le septième principe du cosmos manifesté, et pour lui servir d'upadi spirituel, il faut le sixième principe, son véhicule, la matière primordiale physique, pour ainsi dire, bien que sa nature doive à jamais échapper à nos sens normaux limités. Il est facile à un astronome, pour peu qu'il soit doué d'imagination, d'édifier une théorie sur l'émergence de l'univers du sein du chaos, en ayant simplement recours au principe de la mécanique, mais un tel univers ne sera jamais qu'un monstre de Frankenstein par rapport à son savant créateur humain qu'il plongera dans des perplexités sans fin. L'application des seules lois de la mécanique ne peut jamais conduire le théoricien au-delà du monde objectif, et ne dévoilera jamais aux hommes l'origine et la destinée finale du cosmos. Voilà où la théorie nébulaire a conduit la science. À vrai dire, cette théorie est sœur jumelle de celle de l'éther, et toutes deux sont le fruit de la nécessité. L'une est aussi indispensable pour expliquer la transmission de la lumière que l'autre peut résoudre le problème de l'origine des systèmes solaires. La question pour la science est de savoir comment la même matière homogène a pu, conformément aux lois de Newton, donner naissance à des corps, soleil, planètes et leurs satellites, soumis à des conditions de mouvement identiques et formés d'éléments aussi hétérogènes. Note. Si les astronomes, en l'état actuel de leurs connaissances, s'en étaient tenus à l'hypothèse de Laplace, qui traitait simplement de la formation du système planétaire, elle aurait pu, avec le temps, donner des résultats ressemblant quelque peu à une vérité approximative, mais les deux parties du problème général, celle qui traite de la formation de l'univers ou formation des soleils et des étoiles tirées du sein de la matière primordiale, puis du développement des planètes autour de leur soleil, repose sur des faits de nature entièrement différents, et la science elle-même le reconnaît. Ces deux parties occupent les deux pôles opposés d'être. Fin de la note. La théorie nébulaire a-t-elle aidé à résoudre le problème, même en ne l'appliquant qu'au corps que l'on considère comme inanimé et matériel? Nous répondons catégoriquement non. Quel progrès a-t-elle fait depuis 1811, époque à laquelle la brochure d'Herschel, avec ses faits basés sur l'observation et prouvant l'existence de manière nébulaire, fit pousser des cris de joie aux membres de la Société royale? Depuis lors, une découverte encore plus importante, due à l'analyse spectrale, a permis de vérifier et de corroborer l'idée d'Herschel. La place exigeait une sorte de matière du monde pour démontrer la justesse de l'évolution progressive et de la croissance des mondes. La voici telle qu'on l'offrait il y a 2 milliers d'années. L'étoffe du monde à laquelle on donne aujourd'hui le nom de nébuleuse était connue dès la plus haute antiquité. Anaxagore enseignait qu'après différenciation, le mélange de substances hétérogènes ainsi obtenues demeurait sans mouvement et sans organisation jusqu'au moment où le mental, nous disons la collectivité des Dianchoan, commença à agir sur lui et à lui communiquer mouvement et organisation. Cette théorie est aujourd'hui reprise en ce qui concerne sa première partie. La dernière partie, celle qui a trait à l'intervention d'un mental quelconque, est écartée. L'analyse spectrale révèle l'existence de nébuleuses entièrement formées de gaz et de vapeurs lumineuses. Est-ce là la matière nébuleuse primitive? Les spectres révèlent, dit-on, les conditions physiques de la matière qui émet la lumière cosmique. On démontre que les spectres des nébuleuses résolubles et irrésolubles sont absolument différents, car ceux de ces dernières prouvent que leur état physique est celui de gaz ardent ou de vapeur. Les lignes brillantes d'une nébuleuse révèlent l'existence d'hydrogène et d'autres substances matérielles connues et inconnues. Il en est de même de l'atmosphère du Soleil et des étoiles. Cela nous conduit à la conclusion directe qu'une étoile est formée par la condensation d'une nébuleuse et par suite que les métaux eux-mêmes sont formés sur la Terre par la condensation de l'hydrogène ou d'une autre matière primitive cousine éloignée de l'hélium, peut-être, ou encore d'une matière inconnue jusqu'à présent. Cela n'est pas en désaccord avec les enseignements occultes, et c'est là le problème que la chimie cherche à résoudre. Elle doit réussir, tôt ou tard, à accomplir cette tâche en acceptant, nolens volens, l'enseignement ésotérique pour y arriver. Toutefois, lorsque cela arrivera, ce sera la mort de la théorie nébulaire telle qu'elle existe aujourd'hui. En attendant, l'astronomie, si elle veut être considérée comme une science exacte, ne peut en aucune façon accepter la théorie actuelle de la filiation des étoiles, même si l'occultisme l'accepte à sa manière en expliquant cette filiation différemment, attendu que l'astronomie n'a pas une seule donnée physique à faire valoir en sa faveur. L'astronomie pourrait devancer la chimie en établissant les faits, s'il lui était possible de montrer une nébuleuse planétaire montrant un spectre de 3 ou 4 lignes brillantes qui se condenserait graduellement pour se transformer en une étoile dont le spectre serait couvert de nombreuses lignes obscures, mais la question de la variabilité des nébuleuses, même en ce qui concerne leur forme, est encore un des mystères de l'astronomie. Les observations que l'on a faites jusqu'à présent sont d'origine trop récente, sont trop incertaines pour nous permettre une affirmation. Extrait de Hypothèse cosmogonique de Wolff. Depuis la découverte du spectroscope, son pouvoir magique n'a révélé à ses adeptes qu'une seule transformation de ce genre pour une étoile, et cette observation elle-même prouvait précisément le contraire de ce qu'il aurait fallu pour constituer une preuve à l'appui de la théorie nébulaire, attendu qu'elle a permis de voir une étoile se transformant en une nébuleuse planétaire. Ainsi que le fait est rapporté dans The Observatory, l'étoile temporaire découverte par F.F. J. Schmidt dans la constellation du Cygne en novembre 1876 donnait un spectre coupé par des lignes très brillantes. Graduellement, le spectre et la plupart des lignes disparurent, ne laissant finalement subsister qu'une seule ligne brillante qui semblait coïncider avec la ligne verte de la nébuleuse. Bien que cette métamorphose ne soit pas inconciliable avec l'hypothèse de l'origine nébulaire des étoiles, néanmoins, cet unique cas isolé ne s'appuie sur aucune observation, et encore moins sur l'observation directe. Cet événement peut avoir été dû à diverses autres causes. Puisque les astronomes penchent à croire que nos planètes ont une tendance à se précipiter dans le Soleil, pourquoi cette étoile ne se serait-elle pas enflammée par suite d'une collision avec des planètes qui se seraient précipitées de cette façon, ou bien, comme beaucoup de personnes le suggèrent, par suite de sa rencontre avec une comète? Quoi qu'il en soit, le seul exemple connu, depuis 1811, de la transformation d'une étoile n'est pas favorable à la théorie nébulaire. De plus, à propos de cette théorie comme à propos de toutes les autres, les astronomes ne sont pas d'accord. À notre époque, et avant que Laplace y eût jamais pensé, Buffon, très frappé par l'identité de mouvement des planètes, fut le premier à émettre l'hypothèse qu'elles et leurs satellites avaient pris naissance dans le sein du Soleil. Plus tard, et pour appuyer son dire, il inventa une comète spéciale qui fut supposée avoir arraché, au moyen d'un puissant choc oblique, la quantité de matière nécessaire à leur formation. Laplace régla le compte de cette comète dans son exposition du système du monde, mais l'idée fut conservée et même perfectionnée par la conception de l'évolution alternative, du sein de la masse centrale du Soleil, de planètes n'ayant en apparence aucun poids ni aucune influence sur le mouvement des planètes visibles, et n'ayant, c'est tout aussi évident, pas plus d'existence réelle que n'en a l'image de Moïse dans la Lune. La théorie moderne n'est toutefois elle aussi qu'une variante des systèmes élaborés par Kant et Laplace. Leur idée à tous deux était qu'à l'origine des choses, la matière qui entre dans la composition des corps planétaires était entièrement répandue dans l'espace compris dans les limites du système solaire, et même au-delà. C'était une nébuleuse d'une densité extrêmement faible, dont la condensation graduelle donna naissance, au moyen d'un mécanisme qui n'a jamais été expliqué jusqu'à présent, aux divers corps de notre système. Telle est la théorie nébulaire originale, c'est-à-dire une répétition incomplète, mais fidèle, comme un court chapitre extrait du gros volume de la cosmogonie ésotérique universelle, des enseignements de la doctrine secrète, et les deux systèmes, celui de Kant comme celui de Laplace, diffèrent grandement de la théorie moderne, qui regorge de sous-théories contradictoires et d'hypothèses fantaisistes. Les instructeurs disent, citation, « L'essence de la matière cométaire, et celle qui compose les étoiles, a des caractéristiques chimiques et physiques totalement différentes de toutes celles qui sont familières aux plus grands chimistes et physiciens. Tandis que le spectroscope a établi la similitude probable, par suite de l'action chimique de la lumière terrestre sur les rayons interceptés, de la substance terrestre et sidérale, les actions chimiques spéciales au globe différemment évolué de l'espace n'ont pas été découvertes et l'on n'a pas établi qu'elles soient identiques à celles que l'on observe sur notre propre planète. » Extrait de Five Years of Theosophy. Fin de citation. Crookes dit presque la même chose dans le passage que nous avons cité de sa conférence sur les éléments et méta-éléments. Si Wolf, membre de l'Institut, astronome de l'Observatoire de Paris, fait observer que, citation, l'hypothèse nébulaire peut tout à fait s'appuyer, avec W. Herschel, sur l'existence des nébuleuses planétaires ayant atteint divers degrés de condensation, et sur celles de nébuleuses en spirale, ayant des noyaux de condensation sur les branches et au centre, mais en fait la connaissance du lien qui unit les nébuleuses aux étoiles nous est encore refusée, et privés comme nous le sommes de l'observation directe, nous sommes même dans l'impossibilité de la baser sur une analogie dans la composition chimique. Fin de citation. Note. Les spectres de ces nébuleuses n'ont jamais été déterminés encore. Ce n'est que lorsqu'ils seront reconnus comme comportant des lignes brillantes qu'il sera permis d'en parler. Fin de la note. Même si les savants, écartant la difficulté à laquelle donnent naissance une variété et une hétérogénéité aussi incontestables dans la matière qui constitue les nébuleuses, admettaient avec les anciens que l'origine de tous les corps célestes visibles et invisibles doit être recherchée dans une unique matière première primordiale homogène, dans une sorte de pré-protyle, il est évident que cela ne mettrait pas un terme à leur perplexité. Note. Il ne faut pas considérer le protyle de Crookes comme la matière primordiale dont les Dian Shoan, d'accord avec les lois immuables de la nature, se seraient servis pour édifier notre système solaire. Ce protyle ne peut même pas être la prima materia de Kant, dont cet esprit éminent concevait l'emploi pour la formation des mondes et qui par suite n'existait plus à l'état diffus. Le protyle représente une phase moyenne de la différenciation progressive, donc, de la substance cosmique, depuis son état normal non différencié. C'est l'aspect que prend la matière à mi-chemin de sa marche vers l'objectivité complète. Fin de la note. À moins qu'il n'admette en même temps que notre univers visible actuel n'est que le Shtula Sharira, le corps grossier, du septuple cosmos, Il se trouverait en présence d'un autre problème, surtout s'il se hasardait à maintenir que ceux de ses corps visibles maintenant sont le produit de la condensation de cette seule et unique matière primordiale. La simple observation leur prouve en effet que les opérations qui ont produit l'univers réel sont infiniment trop complexes pour que cette théorie puisse jamais les comprendre toutes. Il y a tout d'abord deux classes distinctes de nébuleuses irrésolubles, ainsi que l'enseigne la science elle-même. Le télescope ne permet pas de distinguer entre elles ces deux classes, mais le spectroscope le permet et fait ressortir des différences essentielles dans leurs conditions physiques. Cette question de la résolubilité des nébuleuses a très souvent été présentée d'une façon trop affirmative, tout à fait contraire aux idées exprimées par l'illustre expérimentateur qui a étudié les spectres de ces constellations, M. Huggins. Toutes les nébuleuses dont le spectre ne renferme que des lignes brillantes sont gazeuses, dit-on, et par suite irrésolubles. Toutes les nébuleuses qui ont un spectre continu doivent finir par se résoudre en étoiles avec un instrument suffisamment puissant. Cette supposition est, en même temps, contraire aux résultats obtenus et à la théorie spectroscopique. La nébuleuse de la Lyre, celle de l'Altair, la région centrale de la nébuleuse d'Orion, paraissent résolubles et donnent un spectre de lignes brillantes. La nébuleuse des chiens de chasse n'est pas résoluble et donne un spectre continu. Cela tient, en effet, à ce que le spectroscope nous renseigne sur l'état physique de la matière qui constitue les étoiles, mais ne nous donne aucune idée de leur mode d'agrégation. Une nébuleuse formée de globes gazeux, ou même de noyaux faiblement lumineux entourés par une atmosphère puissante, donnerait un spectre de lignes et pourtant serait résoluble. Tel semble être l'état de la région de Huggins dans la nébuleuse d'Orion. Une nébuleuse formée par des particules solides ou fluides à l'état d'incandescence, un vrai nuage, donnerait un spectre continu et ne serait pas résoluble. Fin de citation. Quelques-unes de ces nébuleuses, nous dit Wolf, citation, ont un spectre comprenant 3 ou 4 lignes brillantes. D'autres ont un spectre continu. Les premières sont gazeuses, les autres sont formées d'une matière pulvérulente. Les premières doivent constituer une véritable atmosphère. C'est parmi elles qu'il faut classer la nébuleuse solaire de Laplace. Les dernières forment un ensemble de particules que l'on peut considérer comme indépendants et dont la rotation obéit aux lois de pesanteur interne. Telles sont les nébuleuses adoptées par Kant et par Faye. L'observation nous permet de faire remonter les unes et les autres à l'origine même du monde planétaire. Mais lorsque nous tentons d'aller au-delà et de remonter jusqu'au chaos primitif qui a produit la totalité des corps célestes, il nous faut tout d'abord expliquer l'existence de ces deux classes de nébuleuses. Si le chaos primitif était un gaz froid et lumineux, on pourrait s'expliquer que la contraction qui résulte de l'attraction ait pu l'échauffer et le rendre lumineux. Note. Voyez la stance 3 commentaire 9 au sujet de la lumière ou flamme froide, où l'on explique que la mer, le chaos, est un feu froid, un rayonnement froid, incolore, sans forme, dépourvu de toute qualité. Entre guillemets, le mouvement, nous dit-on, en sa qualité d'unique éternel, est et renferme les potentialités de toutes les qualités dans les mondes mandvantariques. Fin de la note. Il nous faut expliquer la condensation de ce gaz à l'état de particules incandescentes dont le spectroscope nous révèle la présence dans certaines nébuleuses. Si le chaos original était composé de particules de ce genre, comment se fait-il que certaines de leurs parties soient passées à l'état gazeux, tandis que d'autres ont conservé leur état primitif? Fin de citation. Tel est le résumé des objections et des difficultés qui s'opposent à l'acceptation de la théorie nébulaire, objection mise en lumière par le savant français qui termine son intéressante argumentation en déclarant que, citation, la première partie du problème cosmogonique, quelle est la matière primitive du chaos et comment cette matière a-t-elle donné naissance au soleil et aux étoiles, ne sort donc pas jusqu'à présent du domaine du roman et de la pure imagination. Fin de citation. Si c'est là le dernier mot de la science sur cette question, à qui devrons-nous nous adresser pour apprendre ce que la théorie nébulaire est supposée renseigner? En fait, qu'est-ce que cette théorie? Ce qu'elle est, personne ne semble le savoir d'une façon certaine. Ce qu'elle n'est pas, nous l'apprenons dans la bouche du savant auteur de World Life. Il nous dit que, citation, « Premièrement, ce n'est pas une théorie de l'évolution de l'univers. C'est avant tout une explication de l'origine des phénomènes du système solaire et accessoirement la coordination, sous une conception commune, des principaux phénomènes qui se produisent dans le firmament étoilé et nébuleux, coordination poussée aussi loin que la vue de l'homme a pu pénétrer. Deuxièmement, elle ne considère pas les comètes comme comprises dans l'évolution spéciale qui a produit le système solaire. Entre parenthèses, la doctrine ésotérique est d'opinion contraire, attendu qu'elle considère les comètes comme des formes d'existence cosmique, coordonnées avec des phases plus lointaines de l'évolution nébulaire, et qu'elle attribue réellement à elles surtout la formation de tous les mondes. Fermez les guillemets. Troisièmement, elle ne nie pas l'existence d'une histoire antérieure du brouillard de feu lumineux. Entre parenthèses, le stade secondaire de l'évolution dans la doctrine secrète, et ne prétend pas avoir atteint le commencement absolu. Elle admet même que ce brouillard de feu puisse avoir existé auparavant dans un état froid, non lumineux et invisible. Quatrièmement, finalement, elle ne prétend pas découvrir l'origine des choses, mais seulement un stade de l'histoire matérielle, laissant le philosophe et le théologien aussi libres que jamais de rechercher l'origine des divers modes de l'être. Fin de citation. Ce n'est pas tout. Le plus grand philosophe de l'Angleterre, Herbert Spencer, s'attaqua lui-même à cette fantastique théorie en disant, petit a, qu'elle ne résout pas le problème de l'existence, petit b, que l'hypothèse nébulaire ne jette aucune lumière sur l'origine de la matière diffuse, et petit c, que l'hypothèse nébulaire, telle qu'elle existe actuellement, implique une cause première. Celle-ci, nous le craignons, du moins, dépasse l'attente de nos modernes physiciens. Il semble donc que la pauvre hypothèse ne puisse guère espérer d'être secourue ou corroborée, même dans le monde des métaphysiciens. Étant donné tout cela, les occultistes croient avoir le droit de présenter leur philosophie, si mal comprise et si frappée d'ostracisme qu'elle soit pour le moment, et ils soutiennent que l'impuissance des savants à découvrir la vérité est entièrement due à leur matérialisme et à leur mépris des sciences transcendantes. Pourtant, bien que les esprits scientifiques de notre siècle soient aussi éloignés que jamais de la véritable et correcte doctrine de l'évolution, il reste encore un peu d'espoir pour l'avenir, car même maintenant nous découvrons un autre savant qui nous en donne un faible aperçu. Dans un article de la Popular Science Review sur les recherches récentes sur la vie des infiniment petits, H.J. Slack nous dit, citation, « Toutes les sciences, depuis la physique et la chimie jusqu'à la physiologie, convergent évidemment vers une doctrine de l'évolution et du développement, dans laquelle les faits établis du darwinisme seront compris, mais quant à l'aspect final que revêtira cette doctrine, il n'y a guère de données, ou pas du tout, pour le savoir, et peut-être le mental humain ne lui donnera-t-il pas forme jusqu'à ce que les recherches métaphysiques aussi bien que physiques soient bien plus avancées. » Fin de citation. Voici vraiment une heureuse prédiction. Le jour peut venir où la sélection naturelle, telle que l'ont enseigné Darwin et Herbert Spencer, ne constituera plus, dans sa dernière modification, qu'une portion de notre doctrine orientale de l'évolution, qui sera Manu et Kapila expliquée ésotériquement.